Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante. Même si la manière de les présenter est parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Xavier Maga, Honoré Perron, Maud de Sénat, Jean-Noël Cimetière, Claude Janin et Noël Goutenoir.
1854, hygiène et salubrité publique. Malgré les mesures prises, les principes élémentaires d'hygiène individuelle ne semblent pas beaucoup préoccuper les Rouennais et, en juillet 1884, le commissaire de police nouvellement nommé donne 48 heures aux éleveurs de porcs pour quitter le périmètre de la ville. Et dans ce même délai, il ordonne l'évacuation de tout le fumier sous peine de poursuite. De son côté, la municipalité, dans un but de salubrité publique, ordonne de remblayer la partie délaissée de la Loire, actuelle place de la Loire, existant en amont de l'ancien pont de bois délaissé qui exhale des miasmes putrides. C'est le sol de la terrasse des Capucins qui fournira la terre nécessaire. Ces travaux ont pour avantage de niveler cette ancienne terrasse, aujourd'hui place de l'Hôtel de Ville, et de l'amener au niveau de la rue Impériale, actuelle rue Jean Jaurès. Une autre mesure infiniment plus importante par ses conséquences sera la décision prise par le préfet de la Loire d'assainir la plaine du Forez par la suppression des étangs et d'ores et déjà interdiction est faite de remettre en eau les étangs à sec. Cette lutte pour l'assèchement du Forez va s'étendre sur de longues années, mettant aux prises les propriétaires éleveurs et exportateurs de carpes à une opinion publique qui prend conscience du danger que représente cette plaine dénudée, désolée par une insalubrité désastreuse où la variole, la fièvre typhoïde et les gastro-entérites sévissent à l'état endémique. Comme le souligne Henri Géret,
le mal par excellence, fruit de l'insalubrité, c'est la fièvre. Figure centrale dans cette danse macabre, se dresse le spectre livide de cette funeste maladie décrite par Grandjean.
Ce sont d'abord des fièvres intermittentes qui se manifestent par un état de langueur, la traîne quoi, qu'accompagnent ennui, malaise, maux de tête et perte d'appétit pour devenir fièvre en tierce ou quarte ou continue, et soit disparaître à l'automne, soit au contraire conduire à un dépérissement progressif avec obstruction dans les viscères, fièvre putride, inflammatoire et enfin à la mort. À tout point de vue, la fièvre abâtardit, elle engendre un état physique et mental médiocre chez le forésien dont nos auteurs donnent un portrait peu flatté.
Le docteur Berger écrit à ce sujet.
L'habitant de la plaine est d'une stature moyenne de 5 pieds, le teint peu coloré, étiolé, chétif, de peu d'embonpoint. Sa marche est lente, ses mouvements lourds, et il a un moral passif, indolent, une intelligence obtuse, des passions froides.
Un autre renchérit.
La vieillesse commence à 45 ans. Ils sont décrépits à 50. Indolents, apathiques, sans ressort, les plénards vont s'abandonner aux atteintes de la fièvre avec une indifférence stupide. Malsaine, insalubre, la plaine apparaît comme un désert. On suivra les grandes routes pendant des lieues sans trouver trois maisons sur leur bord.
La cause est entendue et c'est le méphitisme que l'on attribue à la présence dans l'air d'émanation ou miasme qu'il faut combattre. Encore faudra-t-il trouver les crédits nécessaires pour remplacer l'étang par une agriculture qui, pour l'heure, manque de moyens, de capitaux et de technicité. L'influence de Persigny aurait pu être déterminante dans la résolution de ce problème, mais le 22 juin 1854, la presse publie une lettre de l'empereur adressée à son ministre de l'Intérieur, lettre qui commence par ces mots.
« Je regrette vivement que votre santé vous oblige à me donner votre démission. »
C'est d'ailleurs l'ensemble de la situation française qui paraît préoccupante en cette fin d'année 1854. Depuis août, les combats contre l'armée russe font rage et c'est avec beaucoup de retard que le 15 octobre, la presse publie le compte-rendu de la bataille de l'Alma ainsi que l'annonce de la mort du général de Saint-Arnaud. Le général Corrobert est chargé d'achever l'œuvre entreprise et le 25 novembre, on apprend le siège de Sébastopol. Ce qui préoccupe la population, c'est moins l'annonce de nos succès militaires que l'éventualité de la mobilisation de nouvelles classes. D'autant que les démentis ambigus publiés par la presse n'apportent aucune certitude. L'écho du Rouennais se contente d'écrire.
Des personnes mal intentionnées colportent dans les campagnes la nouvelle que le gouvernement va faire une levée de 500 000 hommes. Quoiqu'un bruit aussi faux ne mérite pas de réfutation sérieuse, il importe néanmoins de le signaler à l'attention des honnêtes gens. Quand le corps législatif sera réuni, on demandera tout au plus une levée égale à celle de l'année dernière.
Toutes ces préoccupations n'entravent en rien la vie quotidienne à Rouen. Le sculpteur Lescornel vient de présenter à l'hôtel de ville le buste de Popule, en même temps qu'il vient de terminer un groupe de l'ange gardien que l'on verra bientôt sur le frontispice de la porte de la chapelle du lycée. L'écho du Rouennais, toujours du 8 octobre, consacre toute sa première page à l'exposé d'un nouveau traitement contre le choléra, à base d'esprit de camphre, et il affirme avec un bel optimisme:
il n'y a point de maladie plus facile à guérir que les premiers symptômes du choléra.
En fait, il s'agit bien là d'un optimisme de circonstance, car on apprend par ailleurs que l'épidémie a sévi avec une particulière gravité à Lorette. Et, dans ce même temps, la guerre de Crimée fera au total 95 000 victimes, pour la plupart, du choléra.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Xavier Maga, Honoré Perron, Maud de Sénat, Jean-Noël Cimetière, Claude Janin et Noël Goutenoir.